Salut à toutes et à tous. Au sommaire de cet épisode, il y aura The Apprentice, Overboard, Gex, Wave Race 64 et un dossier sur la ColecoVision. Bienvenue sur Rétrovision. Qu'il est dur d'être l'apprenti d'un sorcier, surtout quand ce dernier n'est autre que Gandalf S. Wandburner, troisième du nom. Et ce n'est pas Marvin, l'apprenti en question, qui dira le contraire. Placé tout en bas de la hiérarchie du château, juste après Snowfall le chat et Randalf le corbeau, le pauvre Padawan en est réduit à faire les plus basses besognes et à répondre à toutes les volontés de son irascible maître. Dans The Apprentice, le joueur est donc invité à partager une semaine dans la vie de Marvin, au sein du château. À chaque jour correspondra une besogne à accomplir pour satisfaire le sorcier. Aller chercher un livre dans la tour médiévale, récupérer ce même livre que vous aurez malencontreusement fait tomber dans un puits, aller chercher le chat, puis le corbeau, des glaçons pour le whisky du maître, ainsi que son nounours. Le soft se présente sous la forme d'un jeu de plateforme à scrolling vertical, l'action se déroulant dans les différentes tours du château. Chaque niveau est divisé en trois segments que vous devrez parcourir afin de faire face à un boss, puis un stage bonus. Pour éradiquer les divers ennemis que vous rencontrerez, vous pourrez soit leur sauter dessus, soit utiliser votre arme, différente selon le niveau. Une baguette magique, un arc, un pistolet à eau, etc. Il vous sera nécessaire de récupérer des clés pour avancer et il ne sera pas rare de faire des allers et retours pour y parvenir. Le tout dans un laps de temps limité, généralement 10 minutes. Prenez tout de même le temps de la réflexion plutôt que d'avancer tête baissée, car le moindre contact avec l'ennemi vous sera fatal. Heureusement que certains bonus d'invincibilité et des vies supplémentaires seront dispersés pour vous donner un petit coup de pouce. The Apprentice est un jeu qui étonne, comparé aux autres titres du catalogue CDI. Doté d'une réalisation remarquable, avec des graphismes fins et foisonnants de couleurs, très typés Amiga ou Atari ST, son animation fluide et détaillée, ainsi que ses thèmes musicaux agréables, mais qui ne risquent pas de plaire à tout le monde. Le jeu de The Vision Factory se démarque fortement des autres productions assez médiocres, il faut l'avouer, du CDI. Il est toutefois bon de nuancer ses éloges, car le soft souffre quand même d'un défaut pénalisant, sa maniabilité. En effet, on remarquera un léger temps de latence entre l'appui d'un bouton et la réaction du personnage. Un temps d'adaptation sera nécessaire pour pouvoir donc maîtriser le jeune Marvin. Cela n'empêchera pas, une fois arrivé dans le niveau des glaces aux plateformes glissantes, de déclencher de nombreuses crises de nerfs, la difficulté du titre étant déjà bien élevée à la base. The Apprentice reste donc un excellent jeu pour une machine qui en manque cruellement. N'hésitez donc pas à l'essayer et à chercher de nombreux clins d'œil au cinéma et aux autres jeux vidéo qui y sont cachés. Pour info, The Vision Factory avait commencé à travailler sur une suite, Apprentice de Marvin's Mountain, mais face à l'impopularité du CDI, le projet n'est pas allé plus loin. C'est le pavillon noir. Overboard, aussi appelé Shipwreckers en Amérique du Nord, est un jeu d'aventure original sorti en 1997 sur PlayStation et édité par Psygnosis. Dans ce jeu, vous dirigez un petit bateau en vue de dessus et les commandes pour naviguer ne sont pas super faciles, mais après un petit peu de temps d'adaptation, on s'y fait facilement. Dans ce jeu, vous devrez abattre différents navires tout en évitant leurs tirs, mais aussi leurs lance-flammes. D'ailleurs, quand votre bateau est en flammes, il va falloir récupérer vos marins qui sortiront par-dessus bord, faute de quoi vous perdrez de la vie. Mais pas de panique, car vous pouvez vous défendre avec différentes armes, telles que celles d'origine, un canon central et des canons latéraux. Un peu plus loin dans le jeu, vous pourrez utiliser des lance-flammes, des mines, des missiles et plein d'autres armes. Il faut avouer que vous aurez de quoi faire, et vous aurez même la possibilité de voler momentanément, ce qui permettra d'atteindre des endroits inaccessibles en temps normal. Mais attention, car si vous retombez sur le sol ou une surface dure, votre navire se brisera en mille morceaux. Les niveaux étant assez grands, vous aurez la possibilité de vous repérer grâce à une carte activable à tout moment. La difficulté est croissante et on ne rencontre pas de réels problèmes. Le soft est très agréable et les niveaux sont très jolis. Ils sont au nombre de 5 et composés eux-mêmes de 4 sous-niveaux, le quatrième de chaque monde étant un boss. Vous commencerez dans le monde de la mer des Caraïbes, puis les mers Aztèques. Ensuite, c'est au tour des banquises de l'Arctique. À la suite de ça, vous vous retrouverez dans le monde industriel. Et pour finir, le monde des mille et une nuits. Dans le menu des options, on peut entre autres choisir la difficulté, le volume de la musique et ou les bruitages, changer l'assignation des boutons et aussi le mode de son, stéréo ou Dolby. Vous avez aussi un mode de joueur assez secondaire car il fait fortement penser au jeu combat sur Atari 2600. Vous êtes sur une carte et vous devez couler votre adversaire. Vous aurez pour ce faire la quasi-totalité des armes disponibles dans le jeu. Pour finir, ce titre propose de sauvegarder les parties ou de noter les mots de passe si vous n'avez pas de carte mémoire. Une bonne idée pour l'époque, vu que celle-ci était assez chère. Voilà un jeu qui donne envie de se déguiser en pirate, distrayant mais pas inoubliable.
Get it on.
Vous est-il déjà arrivé que, pris d'une flemme intense, vous passiez des heures vautrées dans votre canapé à regarder la télé? C'est le cas de Gex, à la différence près que ce jeune geeko en a fait son mode de vie, suite à une tragédie survenue dans sa vie. Tellement passionné par les programmes télé, Gex en connaît les répliques de séries par cœur. Mais ce dernier ignore que de l'autre côté du tube cathodique, Rez, le seigneur de la dimension des médias, compte faire de lui sa mascotte et l'utiliser pour conquérir le monde. Amené de force dans la dimension des médias, Gex devra se défaire de Rez pour retourner dans le monde réel. Bien que publié sur une machine pionnière de la 3D, Gex est un jeu de plateforme 2D traditionnel. Pour sauver sa peau, le jeune reptilien traversera de nombreux niveaux illustrant divers genres de programmes télé, films d'horreur, d'aventure, de science-fiction ou dessins animés. Pour sortir de ce guépier, Gex devra trouver les télécommandes qui lui permettront d'arriver jusqu'à Rezopolis. Pour ce faire, le geeko pourra compter sur ses nombreuses facultés physiques. Des pattes lui permettant d'adhérer à n'importe quelle surface, une longue langue pour attraper des bonus, et sa queue puissante pour frapper ses ennemis ou détruire des parois. Les divers niveaux traversés sont vastes, complexes et bourrés de passages secrets, ce qui n'aurait pas dérouté un certain plombier moustachu. Bien que la difficulté soit élevée, cela n'empêche pas Gex de prendre sa situation avec légèreté, ponctuant nombre de ses actions avec des répliques cultes de séries américaines, ce qui, malheureusement, passera totalement inaperçu auprès des joueurs étrangers à la culture télévisuelle made in USA. D'un point de vue technique, le jeu s'en sort bien. Les graphismes comme les musiques sont de bonne facture et représentent bien les différents environnements traversés, même si tout le monde n'adhère pas forcément au style. La jouabilité simple et la maniabilité réactive permet une progression agréable, même si celle-ci sera ralentie par une difficulté assez corsée. Gex est donc clairement un titre qui s'élève au-dessus de la moyenne du catalogue assez terne de la 3DO. Fort de sa popularité, le soft se verra adapté l'année suivante sur PlayStation et Saturn, puis sur PC. La série se verra gratifiée de deux suites, entièrement en 3D, sur les consoles de salon de la fin des années 90. Malheureusement, la série est tombée en désuétude et aucun nouvel opus n'a vu le jour. Notre geeko, quant à lui, est retourné lézardé devant sa télé. En ces temps sombres et froids, je vous emmène un peu de chaleur avec un jeu qui est en complète contradiction avec la saison. Wave Race, sorti en Europe le 29 avril 1997 et développé par Nintendo, est un jeu de course avec des jet skis, ce qui est original pour un jeu de ce genre. Ce soft, sorti 3 mois après la sortie de la console, annonce d'emblée la couleur. La Nintendo 64 est capable de réelles prouesses techniques, contrairement à ses concurrentes. Plusieurs modes de jeu vous sont proposés, le mode Championship, dans lequel vous allez participer avec 3 autres pilotes contrôlés par l'ordi, ou une suite de courses avec différentes difficultés, normales, hard et expert. A noter, en mode warm-up, un petit circuit, enfin, il est difficile de parler de circuit car il n'y a pas de sens à respecter, il s'agit plus d'un décor pour se mettre dans le bain, et c'est là personnellement que je passe mon temps à jouer. Le mode Time Trial, qui est un mode entièrement sans concurrent, bien pratique pour connaître le circuit par cœur et aussi de pulvériser les records. Le stunt, quant à lui, vous proposera de passer dans des cercles et de réaliser des cascades dans un temps réduit sur tous les circuits. Vous ne devrez louper aucun cercle, faute de quoi les points ne se cumuleront pas. Le mode de joueur, lui, permettra de se mesurer à un pote. Dans les options, vous aurez la possibilité de modifier pas mal de paramètres communs à beaucoup de jeux, comme par exemple la musique, mais surtout, et là c'est intéressant, de régler les paramètres de course avec le type des vagues, rien, aléatoire, vague de folie, etc. Il y a aussi le nombre de droits à l'échec et le nombre de tours par course. Vous aurez le choix entre 4 personnages aux caractéristiques bien différentes. Ryota Ayami, un japonais d'origine japonaise, âgé de 18 ans. C'est le personnage le plus équilibré et il peut être utilisé par tous les joueurs, surtout les débutants. Dave Mariner, originaire des États-Unis et âgé de 32 ans, possède une grande vitesse de pointe, mais à contrario, il n'est pas maniable et son accélération est mauvaise. Ayumi Stewart, âgée de 21 ans et aussi originaire des États-Unis, possède la vitesse de pointe la plus basse des 4 persos, mais son accélération et sa maniabilité sont les meilleures. Miles Jeté, canadien de 24 ans, a la meilleure maniabilité et toutes les autres caractéristiques sont dans la moyenne. Perso assez difficile à gérer et pourtant il reste de loin mon favori. Attardons-nous aux courses maintenant. On commence par le warm-up nommé Dolphin Park. Comme précédemment cité, ce n'est pas un circuit à part entière, si ce n'est en mode cascade. Ce décor vous permettra de vous entraîner à gérer les virages et autres cascades. Un décor vraiment dépaysant au possible. Le premier circuit, Sunny Beach, est une simple ellipse sans trop de difficultés. La mer est d'un bleu turquoise éclatant. La seconde, Sunset Bay, est une course pendant un coucher de soleil, totalement magnifique. En troisième position, Drake Lake, un lac brumeux, du moins pendant les 2 premiers tours, car ensuite, la brume se lève et laisse apparaître un décor de toute beauté. Ensuite, retour en mer avec Marine Fortress. Ce circuit qui propose une mer assez déchaînée va laisser apparaître un paysage secret au dernier tour, ce qui risque de changer la donne. Puis c'est au tour de Port Blue, une course dans un port évidemment, avec 2 passages qui permettent vraiment une course effrénée. Twilight City, une course de nuit avec de belles rampes et de beaux effets de réflexion de lumière, vraiment sympa. Une course dans un milieu plus froid, plus tendance, je dirais même. Glacia Coast vous donnera des frissons, une course un peu plus dure du fait de la gestion de la glissade sur la glace. Et pour finir, Southern Island, un parcours dans une mer agitée sous un soleil de plomb. Rien à dire si ce n'est que le niveau de l'eau baisse à chaque tour, ce qui condamnera des passages et en créera de nouveaux. Pour finir, on peut dire que Nintendo nous a bien gâtés. Et c'est un des rares jeux que j'ai connu à l'époque et que j'ai toujours le même plaisir de jouer à chaque partie, même plus de 16 ans après, un de mes jeux favoris.
You are the player, and the arcade is the arena. You focus your mind and propel yourself into a universe where you're the master of your destiny for as long as you can keep the trip going. This is the arcade experience. We're ColecoVision. We bring the arcade experience home with games like Donkey Kong with multiple screens, arcade controls, and arcade graphics that let you have the arcade experience at home because your vision is our vision. ColecoVision.
Coleco, acronyme de Connecticut Lever Company, est une société créée au début des années 30 par Maurice Greenberg. D'abord spécialisée, comme son nom l'indique, dans l'artisanat du cuir, celle-ci passera dans les années 60 dans le moulage du plastique avant de se lancer dans le jouet et l'électronique grand public, principalement le jeu vidéo, au milieu des années 70 sous l'impulsion de son nouveau PDG Arnold Greenberg, fils de Maurice. La première gamme de produits à voir le jour est la série Telstar, des consoles de jeux dérivés de Pong. Produite entre 1976 et 1978, cette gamme comportera pas moins de 14 modèles différents pour un total d'1 billion d'unités vendues environ. Par la suite, Coleco flirtera avec le marché des jeux électroniques portatifs, notamment avec la gamme Mini Arcade, des jeux au look similaire au tabletop de Nintendo et proposant des déclinaisons de jeux d'arcade à succès tels que Donkey Kong ou Miss Pac-Man. C'est en août 1982 que la firme lancera sa Coleco Vision. Disposant d'une architecture plus puissante que sa principale concurrente de l'époque, l'Atari 2600, ce qui n'est pas bien difficile sachant que cette dernière était déjà âgée de 5 ans, Coleco n'hésitera tout de même pas à débourser 250 000 dollars pour s'offrir la licence Donkey Kong et ainsi disposer d'une conversion du hit d'arcade pour le lancement de sa machine. Dépense largement compensée au vu des 500 000 unités vendues pour les fêtes de fin d'année. La ColecoVision continuera une distribution hors de l'Amérique du Nord via la société CBS Electronics qui commercialisera la console sous le nom de CBS ColecoVision. Différents modules seront commercialisés avec la machine, volant, joystick, trackball. Le plus controversé sera le module permettant de jouer avec des cartouches Atari 2600, ce qui ne plaira pas à Atari qui intentera un procès mais finira par être débouté, aucun brevet n'ayant été violé. Comble du cynisme, Coleco ira même jusqu'à commercialiser la console Gemini, un clone de l'Atari 2600, histoire de remuer le couteau dans la plaie. Coleco commercialisera également l'Adam, une version ordinateur familial de la Coleco Vision. Mais la machine fera un flop, principalement à cause de problèmes de conception. L'année 83 sera difficile pour la Coleco Vision, comme pour ses concurrentes. Le crash nord-américain du jeu vidéo provoquera une baisse vertigineuse des ventes sur de longs mois. Coleco abandonnera la console ainsi que ses activités dans le jeu vidéo en octobre 1985. La ColecoVision se sera tout de même vendue à plus de 2 millions d'unités et aura offert un catalogue de plus de 140 jeux, principalement des conversions de jeux d'arcade de l'époque, tels que Boulder Dash, Centipede, Shoplifter, Defender, Frogger, Qbert et Zaxxon. A noter que la ColecoVision possède des composants en commun avec le MSX, la Sega SG-1000 ou la Master System, ce qui simplifia les conversions d'une machine à une autre. Enfin, coup de l'arroseur arrosé, la société taïwanaise BitCorp commercialisera en 1986 la console Dyna, un clone de la ColecoVision distribuée en Amérique du Nord par Telegames. Cette machine est également compatible avec les cartouches Sega SG-1000.
Oh,